Deauville.ch.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
De certains IMS, comme c'est les fins de vie, et ben ça fait pas envie.
Tout le monde devrait avoir le droit de choisir, mais c'est, le choix n'est pas disponible à tout le monde de la même manière.
On peut pas choisir sa naissance, mais peut-être qu'on peut choisir sa mort.
Donc vraiment deux camps qui s'affrontent, et j'arrive à comprendre les deux, mais peut-être qu'au final, ce serait peut-être à la personne elle-même de décider.
Après, il faut déjà essayer d'essayer de se faire accompagner, soigner, etc. On est bien d'accord.
Bonjour Jean-Marc Richard.
Bonjour Valérie Ogier, bienvenue à toutes et à tous pour parler d'un sujet assez difficile, assez douloureux aujourd'hui. Peut-on choisir sa mort? Que pensez-vous de la liberté qui est offerte à chacune et à chacun de le faire? Alors, à la fois dans la rue, mais aussi à travers les messages postés sur notre page Facebook, vous d'abord, on peut constater que vous êtes très positif à cette liberté, à cette possibilité de choix, avec pas mal d'expériences que vous partagez avec nous, d'émotions aussi. Et puis, il y a celles et ceux qui y sont opposés pour des arguments plutôt éthiques ou religieux, avec une phrase qui est revenue dans les deux sens. Vous venez d'entendre la version plutôt positive à la liberté, et l'autre version, c'est « on ne choisit pas sa naissance ». Donc, on n'a pas à choisir sa mort. 079 844 0077, c'est notre numéro de téléphone. Vous pouvez l'utiliser pour le répondeur, pour le WhatsApp, pour un message vocal ou écrit. On compte sur vous, sur cette liberté ou non de pouvoir choisir sa mort.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Ogier.
Peut-on choisir sa mort? C'est le thème de vous d'abord, aujourd'hui jusqu'à 13h. Alors le droit à mourir, on en parle avec vous Sophie Vassutine. Quels sont les chiffres?
Eh bien, ils sont en hausse. Aujourd'hui, en Suisse, un décès sur 40 résulte d'un suicide assisté, selon les données de l'Office fédéral de la statistique. En 20 ans, le phénomène a fortement progressé. On est passé de 3,3 décès pour 100 000 habitants à près de 19 pour aujourd'hui. Une augmentation qui reflète l'évolution du regard porté sur la fin de vie dans notre pays.
Et comment fonctionne cette assistance au suicide ?
Le modèle suisse existe depuis les années 80. Il repose sur un accompagnement très encadré impliquant la personne concernée, ses proches, les associations d'aide au suicide et les professionnels de la santé. Une procédure particulièrement balisée.
Et pourtant la Suisse ne dispose toujours pas d'une loi fédérale spécifique.
Malgré plus de 1700 décès par an, une majorité du Conseil des États a estimé l'an dernier qu'il n'était pas nécessaire de légiférer davantage. Pour ses défenseurs, le système actuel fonctionne et les règles éthiques sont respectées.
Mais l'appareil de la capsule Sarko a relancé le débat.
Vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2024, une personne a mis fin à ses jours dans la controversée capsule d'aide au suicide Sarko, une capsule inventée par un médecin australien qui libère une importante quantité d'azote. Il s'agit du premier cas d'euthanasie pratiqué en Suisse dans une cabane forestière à Merishausen. La police schaffhausoise a arrêté plusieurs individus. Une procédure pénale a été ouverte contre ces suspects pour incitation et assistance au suicide.
Et avec Sarko, certains craignent l'apparition d'une nouvelle zone grise.
Avec Sarko, ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a plus de médecin qui intervient. Jusqu'à maintenant, les médecins étaient soumis au code de déontologie de la FMH et aux directives de l'Association Suisse des Sciences Médicales. Là, c'est une nouvelle situation où on a l'absence de médecin et l'absence de situation médicale de personnes en fin de vie ou en souffrance. Mais pour le conseiller aux États genevois, Carlos Omaruga, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il était au micro de Serge Jubin, c'était en septembre dernier.
À l'époque, des premières critiques contre les organisations comme EXIC, on avait un peu le même discours. Et en fait, ces organisations ont démontré qu'elles pouvaient faire face à cette situation et je suis persuadé que ces organisations et des nouvelles organisations sans but lucratif, sans mobile égoïste, pourront faire le même cheminement sans besoin d'une nouvelle régulation.
Et ça, c'était quelques mois avant la controversée capsule Sarko. L'aide au suicide dans les EMS genevois a été maintenue. La modification de la loi sur la santé qui voulait l'abroger a été nettement refusée. 76% des votants ont soutenu le référendum d'Exit.
Et certains sénateurs socialistes se sont pourtant déchirés sur la question à Berne.
C'était le cas de la jurassienne Mathilde Crevoisé-Crelier. Pour elle, il aurait été important de donner un cadre pour assurer la confiance dans les procédures autour du suicide assisté. Alors, doit-on laisser de nouvelles organisations faire le même cheminement sans nouvelles règles ou placer le curseur? À vous d'abord d'en parler.
Merci Sophie Vassutine.
Merci beaucoup. Effectivement, où placer le curseur? Eh bien, ce curseur, dans la rue, vous l'avez placé pour LFM et Carac 3. On va vous écouter.
Vous tombez pile parce que j'ai fait une tentative de suicide. Donc, je me suis inscrit chez Exit. Pour moi, c'est une liberté de savoir que quelqu'un peut m'aider à partir. Mais suite à un deuil, après, j'ai dit, ça serait bien que je parte, j'en ai marre. La vie d'aujourd'hui, c'est pas ma vie.
Je pense que ça le soulage d'avoir cette porte de sortie. Mais nous, quand on est infirmier, on n'est pas pour la mort, on est pour le vivant. Donc du coup, on essaye de tirer aussi et de réanimer psychiquement. Mais il y a des choix et des libertés qui lui appartiennent. Éthiquement, il faut aussi savoir se positionner.
Première rencontre devant le musée Arlot, à la place de la Riponne, et ce monsieur dans la cinquantaine qui raconte son inscription Exit et surtout qui partage avec son infirmière, vous avez compris, c'est l'infirmière qui l'accompagnait, qui le raccompagnait dans le lieu de vie qui est le sien, comme quoi c'est une réalité pour beaucoup de monde. Et dans beaucoup d'interviews faites dans la rue, beaucoup de gens ont témoigné, ma maman, ma grand-maman, mon grand-père, ma sœur même ont choisi Exit. On va en parler avec vous, Edmond Pittet, bonjour, vous êtes le directeur des pompes funèbres générales et praticien. Pourquoi praticien ?
Pourquoi praticien ? Parce que je rencontre environ 250 à 300 familles par année. Et c'est ce qui m'a intéressé au départ, avant d'être responsable d'une société de pompes funèbres, c'était la pratique, être en présence des familles et comprendre aussi ce que sont leurs attentes et leurs souffrances au moment du deuil.
Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quel métier, Edmond ?
Alors, très jeune, je savais que je ferais ce métier-là.
Et pourquoi ?
Je ne peux même pas le dire, je ne peux pas définir les contours, mais ce côté de l'accompagnement des gens qui passent par le deuil m'a toujours intéressé, interrogé. Comment vivre, déjà petit garçon, je me rappelle, avec la perte d'un père, d'une mère, ou d'un frère, ou d'une sœur, c'est quelque chose qui m'a interrogé très très jeune.
Merci d'être là aujourd'hui. On va parler avec vous aussi de l'évolution du lien et du rapport à la mort, évidemment. Et on le fera à travers cette émission 079 844 0077. Êtes-vous pour ou contre la liberté de pouvoir choisir sa mort ?
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Peut-on choisir sa mort ? C'est le thème de Vous d'abord, jusqu'à 13h. Et notre invité est directeur des pompes funèbres générales et praticien. Pardon, il s'agit d'Edmond Pittet. C'est pas un sujet neutre non plus.
J'avais mis ce mot pour essayer d'y arriver, vous voyez.
Ah bah, voilà, c'est ça. Allez.
Praticien, voilà.
Merci. Bravo.
Alors Valérie, on a reçu beaucoup de messages par WhatsApp, de messages écrits. La plupart sont favorables à cette liberté de choix. Il y a Anna néanmoins qui dit que seulement, elle est d'accord seulement si une personne est grièvement malade et souffre d'une maladie incurable. Et elle fait une comparaison, elle dit on aide un animal en grande souffrance, alors on devrait aussi aider un être humain. Tout cela sous certaines conditions. Autrement, c'est délicat, on peut avoir une dépression temporaire où les proches poussent quelqu'un à mourir. C'est le seul message qu'on a qui n'est pas trop favorable à cette liberté. On va écouter ce qu'en pensent celles et ceux qui ont pris le temps de donner de la dimension vocale à leur réflexion, comme Gégé.
J'ai côtoyé dans ma vie des gens qui étaient extrêmement motivés, qui étaient passionnés de la vie, qui étaient dans le partage, qui étaient dans l'émotion au quotidien, vraiment au quotidien. Et subitement, ils ont été atteints d'une maladie qui n'était pas incurable au début. Ils ont lutté, ils ont souffert. Je les ai vus vraiment souffrir chaque jour. Jusqu'au jour où ils ont eu, appelons ça comme ça, cette possibilité d'avoir une assistance au droit à mourir, un gros partage en famille, parce que bien entendu ceux qui restent, ils souffriront encore plus que la personne qui va s'en aller. J'ai vu quand ils ont pris cette décision, qu'ils étaient prêts à partir, c'était juste émouvant, et puis j'ai pu que, pas applaudir, ce serait très vulgaire de dire ça, mais de les accompagner dans la décision et de leur dire, laissez-vous partir. Qui de nous, en bonne santé, avons le droit de juger une personne qui est dans des souffrances extrêmes, et puis que tous les jours se lève avec l'espoir, et qui en fin de journée n'a plus d'espoir ?
Edmond, un mot sur les familles. Vous avez évoqué tout à l'heure l'accompagnement, c'est essentiel. Il y a beaucoup de sentiments de révolte, d'incompréhension chez les familles, quelle que soit la cause de la mort.
Il peut y avoir ce type de réaction lorsque la mort est accidentelle ou lorsque la mort est par suicide. C'est très douloureux pour la famille d'accepter le suicide, dans le sens qu'on a le sentiment de ne pas avoir apporté à la personne ce qui était nécessaire pour éviter cela. Mais généralement, on rencontre plutôt les familles au départ extrêmement accablées, et je pense que ce type de sentiment que vous décrivez viendra plutôt après, même plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, lorsque on doit se faire à l'absence de la personne. Mais sur le moment, c'est l'accablement, et c'est nos regards se portent sur celui qui est parti pour lui apporter le meilleur adieu.
Alors tout à l'heure, on va parler évidemment de faire son deuil ou vivre son deuil avec vous, Edmond Pittet. On va revenir à ce qu'en pensent celles et ceux qui sont dans la rue et qui s'expriment sur ce sujet. Pas simple, hein. Quand on arrive, on demande aux gens, vous pensez que c'est important d'avoir la liberté de faire le choix de sa mort? Voici quelques réponses.
Alors pour moi,
c'est une bonne idée que ça, que de laisser les gens choisir la manière dont ils vont mourir. Parce que j'ai peur qu'avec ça, ça augmente le taux de suicide.
Oui, moi je trouve que c'est bien. Si on peut le choisir à l'avance, oui. Mais c'est compliqué cette phase.
Je sais pas, à partir du moment où la personne, elle est sûre d'elle et qu'elle se sent pas de... Enfin, c'est son choix, ça lui appartient, je pense. Si on se sent pas capable de poursuivre dans l'état dans lequel on est, si on a un profond mal-être, après il faut déjà essayer de se faire accompagner, soigner, etc. On est bien d'accord. C'est vraiment en dernier recours à la rigueur.
Et puis, les ondes de LFM et en écran sur Carac 3, on peut écouter maintenant ce qu'en pense Stéphane.
Alors pour moi, la liberté, elle doit être totale. On doit pouvoir choisir de sa mort avec quelques garde-fous. Les éthiciens mettent souvent en avant le fait qu'on peut changer d'avis. Actuellement, il faut être malade, soit psychologiquement, soit physiquement, pour bénéficier des services d'exit. Et c'est pour moi quelque chose qui va trop loin, déjà trop loin quelque part. Je comprends que des gens peuvent imaginer que choisir sa mort, c'est un acte égoïste vis-à-vis des autres. Pour moi, c'est aussi un acte qui peut être libératoire pour les autres, dans le cadre d'une maladie, d'une dépendance à son entourage ou quelque chose comme ça. On doit pouvoir choisir sa mort.
079 844 0077, dites-nous si vous êtes plutôt favorable ou défavorable à cette liberté qu'on pourrait avoir ou qu'on peut avoir de choisir sa mort.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Peut-on choisir sa mort? C'est le thème de Vous d'abord. Aujourd'hui, notre invité est praticien et directeur des pompes funèbres générales, Edmond Pittet.
Valérie, je vous le disais tout à l'heure que dans tous les messages qu'on a pu lire ou qu'on a reçus, il y a beaucoup de messages qui sont des témoignages, en fait, de gens qui ont vécu des décisions. Et il y a, par exemple, ce témoignage de Stéphanie. Son papa, il a eu 4 AVC et il n'avait plus que le bras de mobile. Et ils ont pensé qu'il allait s'en aller, et pas du tout, écoutez.
On va penser qu'il va s'en aller. En fait, pas du tout. Il va se battre très fort. Il va réapprendre à parler. Mais tout ça pour me regarder droit dans les yeux et me dire « Stéphanie, comme ça, la vie, c'est plus possible, quoi. Moi, j'aime la pêche. Je veux aller en moto. Ma vie, elle est finie. » Limite, il s'excusait d'être un fardeau. C'est lui qui est venu sur la discussion en disant « Est-ce que, s'il te plaît, tu peux regarder ?» Et ça a fait son chemin. Ce qui était beau, c'est qu'il a demandé la permission à ma maman, à mon frère, à moi. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on l'a libéré, il était beaucoup, beaucoup plus serein.
Edmond, faire son deuil, vivre son deuil?
Voilà, faire le deuil, c'est accuser le coup, c'est accepter la perte progressivement. Et vivre le deuil, il y a quelque chose de beaucoup plus long. Je pense qu'on peut vivre un deuil toute une vie. Je pense à ces parents qui ont perdu un enfant, voire même des fois deux enfants au cours de leur existence, et qui ne se sont jamais remis finalement, et qui ont vécu avec ces deuils-là.
Quand il y a un suicide, alors on ne parle pas de suicide assisté, parce que là il y a un accompagnement, enfin il y a des choses, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais quand il y a un suicide, l'incompréhension, elle est difficile pour les proches dans les expériences que vous avez eues?
Alors, l'incompréhension, des fois, elle est totale. C'est ce qu'on appelle l'infarctus psychique. C'est les gens qui se lèvent le matin, partent comme d'habitude, et puis, voilà, dans la journée, on apprend qu'ils se sont enlevés la vie brutalement, sans qu'il y ait une vraie raison connue, en tout cas des proches. Et puis, autrement, je dirais que les familles ne sont pas surprises quand on leur annonce la mort d'un proche par suicide, parce qu'il y avait un état dépressif, parce qu'il y avait des circonstances difficiles. et qui font que finalement la chose est plus acceptable.
Edmond Pittet, on va continuer à parler de tout ça avec vous dans quelques instants. On parlera aussi de ce que vous constatez quand il y a eu un accompagnement avec Exit, par exemple. On va retourner dans la rue pour voir ce qu'en pensent celles et ceux à qui nous avons tendu le micro de LFM.
Les personnes qui veulent se faire euthanasier, elles souffrent énormément. Et comme quoi la vie est sacrée et qu'on ne pourrait pas se loter. Donc vraiment deux camps qui s'affrontent et j'arrive à comprendre les deux, mais peut-être qu'au final, ce serait peut-être à la personne elle-même de décider.
Nous devons avoir la possibilité de choisir qu'est-ce que nous voulons faire. Parce que si tu es malade et tu es vraiment dans la souffrance, pourquoi je dois rester à souffrir pour les dernières années de ma vie? Je ne suis pas croyante, donc je ne pense pas qu'il existe Dieu. Donc c'est nous, c'est mon corps.
Et puis Muriel. Alors Muriel nous avait d'abord envoyé un message dans lequel elle disait en gros ceci: si on ne choisit pas sa naissance, on ne choisit pas sa mort. Et Muriel ensuite est allée vers la réflexion avec ce message vocal.
On ne choisit pas sa naissance, alors ce serait bien de pouvoir choisir sa mort, non? Surtout si on est malade et qu'on souffre. On euthanasie les animaux quand ils souffrent trop, mais c'est tabou chez les humains. Dans ma famille, la mort n'est pas tabou. Le testament est chez le notaire, les directives anticipées sont chez le médecin de famille, l'incinération et le caveau familial sont prêts. Il n'y a plus qu'à mourir, quoi. Bon, le plus tard possible, on espère, mais au moins je sais que c'est réglé.
079 844 00 77, vous pouvez donner votre avis, votre opinion sur cette question. Doit-on ou non donner la liberté ou avoir la liberté de choisir sa mort?
D'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Hougier, la parole est à vous au 079 844 00 77. Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Hougier.
Peut-on choisir sa mort? C'est le thème de vous d'abord. Jusqu'à 13h, Edmond Pittet est notre invité. Il est directeur des pompes funèbres générales, les praticiens.
Et nous allons écouter Vanessa. C'est intéressant parce que Vanessa fait partie de l'association Doula en fin de vie, c'est-à-dire c'est une association qui accompagne les personnes en fin de vie et les proches. Donc c'était intéressant d'avoir son avis sur cette question. Doit-on être libre du choix de sa mort?
Son devoir, je dirais, c'est vraiment d'apporter un accompagnement de qualité dans des situations d'assistance au suicide. Ce sera en général pour la famille, les proches qui auront peut-être besoin d'elle pour se préparer. Puis un endroit où on peut déposer aussi tout ce qui est émotionnel. Et puis d'être une présence stable, en fait, sur laquelle les personnes peuvent compter dans la continuité. Et puis c'est aussi de pouvoir être là après. Globalement, ma position, elle est pas de dire pour ou contre, de se dire que c'est une chance, et puis de pouvoir être présent pour les personnes qui y font face.
Les personnes que vous recevez après le deuil de quelqu'un qui a choisi, prenons le mot exit parce qu'il y en a d'autres, mais c'est le plus connu, elles sont différentes des personnes qui vivent un deuil où il n'y a pas eu un choix, c'est-à-dire que c'est arrivé subitement comme ça?
Bien sûr qu'elles sont différentes, parce que souvent la famille est réunie autour de la personne qui va mourir. Donc on passe les derniers moments ensemble et on a construit ce moment aussi au fil du temps. Ça veut dire que souvent, les familles sont apaisées par le fait que celui qui a fait ce choix, à la fin, se sent apaisé. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des grands combats pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de partir. Nous, on le remarque, par exemple, cette forme, entre parenthèses, d'apaisement, c'est quand ces personnes qui vont mourir avec exit, souvent nous demandent de les rencontrer pour nous donner leur disposition. Et on voit qu'elles sont au bout du tunnel, c'est comme si la lumière apparaissait et qu'ils sont détachés déjà.
079 844 00 77, vous pouvez donner votre avis évidemment sur WhatsApp, vous pouvez le faire avec notre répondeur ou vous pouvez le faire dans la rue quand on vous croise, comme ce fut le cas du côté de la place La Riponne hier.
C'est-à-dire qu'on a oublié que Dieu existe et je pense que c'est le plus important. Et je pense que c'est ça la confusion. On prolonge la vie mais on ne sait pas comment faire après qu'on n'arrive plus à mourir.
Oui, oui, j'ai réfléchi en cas de, d'incapacité, on va dire. C'est toujours un peu compliqué, mais effectivement, je préférerais partir que souffrir.
On ne peut pas choisir sa naissance, mais peut-être qu'on peut choisir sa mort. On est responsable de nous jusqu'au bout. On a des codes à respecter. On fait ce qu'on veut de notre corps et on fait ce qu'on veut de notre mort. Après, il y a des gens qui choisissent. Ça s'appelle le suicide. On en est triste, mais pourtant, ils ont quand même choisi. Puis il n'y a pas tout un scandale derrière. Ma croyance à moi, c'est le respect qu'on peut avoir en nous-mêmes.
Beaucoup de messages, Valérie, sur notre WhatsApp disent et vont dans le même sens. Oui, on devrait nous laisser le choix. En tout cas, c'est la plupart des messages que nous avons reçus. Tous avoir la possibilité de choisir notre mort, le quand et comment, plutôt que d'imposer aux autres une prise en charge, en sachant que de toute façon, la fin est inéluctable. Voilà un certain nombre de messages. Tous, évidemment, empreints d'une expérience pour beaucoup, comme c'est le cas de ce message vocal.
Bon, avant, je partais toujours du principe que comme on choisit pas sa naissance, hein, dans les grandes villes, on ne devrait pas pouvoir choisir sa mort non plus parce que ça ne nous appartient pas. Voilà. Dans la même ordre d'idée, vu que ça ne nous appartient pas, pourquoi prolonger aussi? Pourquoi à tout prix prolonger la vie de personnes qui, de toute façon, ont une échéance proche et puis, ou moins proche, mais que de toute façon, eh ben, ils vont mourir et puis des fois dans des souffrances monstrueuse. Alors pourquoi à tout prix essayer de prolonger la vie? Voilà, moi j'en suis plutôt là. Mais peut-être qu'ils ne feraient pas appel à Exit s'ils savaient qu'on n'essaierait pas de prolonger leur vie un maximum.
Edmond, comment vous faites pour vivre tout ça? Parce que c'est tous les jours votre quotidien jours. Depuis, j'imagine, quelques années.
Oui, depuis quatre décennies en tout cas. C'est pas seulement ces morts-là, hein, c'est quasiment 10% de la mortalité où les gens meurent par accident, par suicide. Vous avez 30% de gens qui meurent subitement. Donc on est 4 fois sur 10 confrontés à des gens qui ne sont absolument pas préparés à cette réalité. Puis après, vous avez tous les cas de maladies dégénératives, de cancers et autres. Je pense où nos collaborateurs aussi trouvent leur force pour pouvoir accompagner ces familles, c'est dans le fait qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont exprimées de la part des familles et qu'il faut répondre à ces attentes. La frustration pour quelqu'un qui travaille dans une activité comme la nôtre, c'est lorsqu'on ne répond pas à toutes ces attentes, lorsqu'on n'a pas la logistique aussi pour le faire. Et je crois que plus nous apportons une réponse aux attentes des familles, plus je crois que nous les aidons aussi sur un plan thérapeutique, si je peux m'exprimer comme ceci, et les conduire sur le chemin du deuil. Alors je parle indépendamment des convictions qu'on peut avoir religieuses, je parle sur un plan professionnel, et la réponse c'est on est bien dans cette profession quand on a le sentiment qu'on n'a rien pris aux familles, qu'on ne leur a rien volé. Finalement, leur savoir, il est très fort. Et les familles savent l'exprimer, à nous de mettre en pratique ce qu'ils nous demandent.
079 844 00 77.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Peut-on choisir sa mort? C'est la dernière ligne droite de Vous d'abord. Et notre invité est Edmond Pittet, directeur des pompes funèbres générales et praticien.
On a reçu deux messages, on a reçu plein, mais qui viennent d'arriver, des messages vocaux qu'on prendra vendredi dans notre récapitulatif. Je voudrais juste les résumer. Il y a celui d'Isabelle qui parle de ce qui lui est arrivé. Il y a 5 ans, elle s'est inscrite à Exit, elle a 55 ans, elle souffrait, elle avait beaucoup de douleurs. Le médecin a refusé de signer sa demande et finalement les choses se sont améliorées pour elle. Donc elle dit, voilà. Il y a eu le temps pour. Et puis Marie-Jo qui parle de l'égoïsme des familles, enfin égoïsme entre guillemets, les familles qui ne veulent pas laisser partir quelqu'un parce qu'elles y tiennent trop, elles y tiennent beaucoup. On ne tient jamais trop à quelqu'un, hein, mais en tout cas beaucoup. Puis finalement, c'est l'effort qu'on doit faire à un moment donné, dit-elle, de laisser partir quand il y a trop de douleur, trop de souffrance. Et puis, qu'en pense Caroline? Voici son message.
On ne choisit pas forcément. Le rêve, c'est de mourir en arrosant ses fleurs dans le jardin et puis en laissant tomber l'arrosoir. Ayant accompagné ma mère aussi dans ces dernières années, mois, semaines, en home, mais il y a des choses qui m'ont vraiment fait réfléchir. Certaines choses, je n'aimerais pas les vivre. Là, il y a des organismes. Par contre, là, le problème, c'est qu'il faut avoir toute sa tête. On ne peut pas le faire à l'avance. C'est sur le moment quand ils viennent nous voir. Donc, comment on fait? Bon, j'ai vu des personnes qui arrêtaient tout simplement de manger.
Edmond Pittet, vous avez parlé de 4 décennies pour votre engagement, pour votre travail, pour votre passion, on doit le dire. C'est ce terme, je crois, qui correspond bien. Tous les gens qui vous rencontrent le constatent. Ça a beaucoup évolué, le lien, le rapport à la mort en 40 ans.
Dans quel sens évoluer ?
Je ne sais pas, peut-être les gens ont plus de difficultés à vivre la mort ou plus de facilité, se vit différemment.
On est aussi dans un monde qui s'est profondément déchristianisé. Ça veut dire qu'au commencement, c'était le pasteur, le prêtre qui organisait, c'était sous sa houlette finalement que se déroulait une cérémonie funèbre. Nous avons maintenant énormément de cérémonies laïques. 35 voire 40% de gens ne veulent plus être accompagnés par un ecclésiastique. Et nous avons 25% de gens qui ne veulent plus de cérémonie. Donc oui, il y a une très grande évolution. Et puis je dirais dans les 35-40% de cérémonies laïques, c'est les familles qui organisent la cérémonie comme elles le veulent. Donc c'est propre aux besoins de la famille.
Ouais, c'est assez fascinant. Ça, c'est la principale évolution.
La grande évolution.
Absolument. Et puis, la présence du suicide ou du suicide assisté, ça, c'était quand
même... Alors, ça n'existait pas quand j'ai commencé. Et puis maintenant, on est parfois une semaine avec un cas de suicide assisté par jour.
Quel regard vous portez ?
Moi, j'espère mourir accompagné. Je ne choisirai pas cette manière-là de partir. Je trouve que la vie est trop importante et puis on a des convictions aussi qui nous permettent de pouvoir affronter ce moment autrement.
Merci d'être venu, merci infiniment. On va encore écouter ce qu'en pensent celles et ceux qu'on a rencontrés dans la rue sur ce sujet de liberté de choisir sa mort ou pas.
Ça soulage de certaines personnes qui souffrent beaucoup trop physiquement, même si les gens ne le voient pas, tu vois. Ah, il a l'air en forme et tout, mais c'est pas eux qui vivent ça. Le grand mal, c'est quand les médicaments ne fonctionnent plus et que tu es obligé de continuer à vivre, parce que la société le veut, ses enfants le veulent, tout le monde, je t'aime et tout ça. Non, c'est toute l'hypocrisie. Si tu peux avaler ton produit, avale-le, merci.
Tout le monde devrait avoir le droit de choisir, mais le choix n'est pas disponible à tout le monde de la même manière et que d'abord, il faudrait s'assurer qu'on offre les possibilités à tout le monde.
Voilà, c'est donc en résumé ce qu'on a pu glaner dans la rue. Edmond Pittet, je vous souhaite une très bonne journée. Restez encore quelques instants en notre compagnie, puisque tout à l'heure, on va écouter un dernier message qui nous est parvenu pendant l'émission. Vous pouvez encore nous envoyer des messages, si vous le voulez, au 079 844 0077. Même si on ne peut pas prendre tout de suite le message, on le prendra vendredi, puisqu'on va faire un récapitulatif de la semaine.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
Dernière ligne droite de ce vous d'abord consacré à cette question, peut-on choisir sa mort ?
Avec un message écrit de Véronique qui raconte qu'elle a accompagné sa maman, qui a fait le choix de partir avec Exit et qui a été accompagnée par vous, par les pompes funèbres générales. Et elle dit, ça fait bizarre de dire cela, mais ma maman m'a fait un beau cadeau. Nous avions préparé toutes les deux pour l'église. Elle dit, du coup, je me suis inscrite à Exit, mais j'ai aussi fait un contrat funéraire. Voilà. Et puis, on va écouter un dernier message que nous avons reçu pendant l'émission, signé Sylvia. Vous voulez le numéro, Valérie ?
Ah oui, à ce stade. Alors, oui.
Attendez, je vais vous le donner tout de suite.
Je vais pas parier,
numéro,
c'est pas le jour.
C'est le 15. Ça va pour vous ?
Alors, personnellement, moi, je trouve que oui, on devrait pouvoir choisir. Moi, je suis inscrite à Exit depuis déjà 7 ou 8 ans. Et je sais, dans ma tête, c'est déjà prévu que quoi qu'il arrive, je ne resterai pas là à traîner des années à souffrir et tout et tout. Effectivement, on ne choisit pas sa naissance, mais à sa naissance, on ne souffre pas. Donc après, si en arrivant plus âgé, il faut traîner avec des choses qui ne sont pas super possibles à supporter, pour certaines personnes en tout cas, la douleur et tout, on a meilleur taux de s'en aller et dans la dignité, j'estime.
Voilà, c'est le dernier avis que nous avons glané. Il y en avait plein d'autres. On les entendra vendredi, Valérie, et demain, alors tout autre sujet. Et on se réjouit de vous entendre sur ce thème. Faut-il ou non interdire la fumée sur les lieux public extérieur ou privé. C'est-à-dire, pour être clair, faut-il interdire la fumée aux terrasses, par exemple, ou dans certains lieux publics? N'hésitez pas à donner votre avis au 079 844 0077. Je vous vois déjà sourire, Valérie. Je pense que ça va être chaud demain. Interdire ou pas la fumée sur les terrasses, par exemple. N'hésitez pas, on vous attend. Merci beaucoup. À demain, Valérie. Merci.
À demain.